Le match va compter pour la 29e journée de Bundesliga. Ça va impliquer deux équipes qui sont quart de finalistes de cette Ligue des Champions. L'une affrontera le Borussia Dortmund, l'autre affrontera le Paris Saint-Germain quart de finale. Mais ce n'est pas le sujet de cet épisode de temps additionnel spécial Preview Liga. Le match entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone parlera lui-même. Ça va être un match qui va compter beaucoup pour la course à la Ligue des Champions, notamment entre les deux équipes. Pour m'accompagner aujourd'hui, forcément, on parle du FC Barcelone, il fallait qu'il soit là sur l'une des previews. C'est Imad, comment vas-tu ?
Salut Quentin, bah écoute, ça va très bien, hein, très très bien, comme on en parlait un petit peu en off actuellement. On va dire que les supporters des deux clubs concernés ont passé quand même une soirée européenne assez joyeuse. Donc on aborde ce gros choc Atlético de Madrid-Barça avec beaucoup d'enthousiasme.
Les derniers jours ont été joyeux, on va dire, voilà.
Ouais.
Voilà, c'est plutôt le sentiment qui règne côté Colchoneros et Blaugrana. Et côté Colchoneros, on a un invité. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas eu dans l'émission et on est très ravis de le recevoir. C'est Mathieu d'Atleti Francia. Comment vas-tu?
Salut les gars et bonjour à tous. Effectivement, c'est vraiment plaisant. Tu l'as dit, Mad. On a vécu une semaine très sympa, notamment nous, une des qualifications les plus enthousiasmantes et les plus stressantes, hein, disons-le aussi.
Oui.
Du côté de l'Atlético. Et donc, forcément, on aborde ce match contre le Barça avec grand sérieux puisque la semaine est très, très chargée.
Oui, une semaine très chargée et puis bah on va commencer par parler de l'Atlético. Hein. Donc on rappelle que ce match est le dernier avant la trêve internationale hein, pour tous les deux équipes. Deux équipes, on l'a dit, fraîchement qualifiées. Il y a une semaine assez intense hein, côté Atlético et Barça. Parlons un petit peu de l'Atlético, Mathieu. C'est une équipe qui avait peut-être besoin de ce coup de pouce dans le sens où cette qualification elle va faire du bien à l'Atlético et elle va aborder ce match avec beaucoup de certitude puisque elle est invaincue à domicile cette équipe depuis le début de saison. C'est 14 matchs et 13 victoires à domicile pour l'Atlético de Madrid. On sent vraiment qu'il y a une certaine aisance quand il s'agit de l'Atlético de recevoir une équipe quelle qu'elle soit.
Ouais, la série était parfaite jusqu'à cette défaite en Coupe du Roi contre Bilbao en match aller. Ça a été une grande déception, d'autant que le match était, enfin, l'aller-retour, hein, d'ailleurs, contre Bilbao, pour ceux qui auraient regardé, n'était pas du tout réussi, le match retour étant une catastrophe, en l'occurrence. Mais c'est vrai qu'à domicile, l'Atlético est très fort. On sent en plus que ils arrivent à choisir aussi leur match. Ça peut être une qualité comme un défaut, bien souvent un défaut. Mais en l'occurrence, on l'a vu contre l'Inter, c'est souvent quelque chose qui les booste lors des grands rendez-vous. Le match contre Barcelone à l'aller, on va en parler, mais c'était mal passé pour l'Atlético, notamment par le fait qu'il semblait perdu par moment. Et cette tendance à être perdu sur le terrain, on ne l'a pas à domicile parce qu'il reste concentré dans ce stade qui est souvent plein. La série, elle est assez impressionnante et on les sent beaucoup plus concentrés. Je parlais de matchs choisis. C'est vrai qu'on les sent capables de faire de grandes choses, mais souvent perdus à l'extérieur. Donc, j'ai bon espoir que ça se passe bien ce dimanche, notamment grâce à ça. Et on en parlera certainement, mais c'est souvent un élément qui nous fait défaut et qui fait aussi qu'on est plus ou moins confiant. C'est un élément notamment pour la qualification qui va compter. Tu parlais de Ligue des Champions tout à l'heure, le fait qu'on reçoive à domicile pour le premier match contre Dortmund, c'est déjà un élément marquant. Donc c'est vraiment une grosse composante de la saison de l'Atlético. C'est domicile ou extérieur, c'est très très important.
Et j'irais même au-delà de juste la saison, moi pour moi, et je vais même faire un parallèle avec la Ligue des Champions, parce que quand même c'est là où c'est le plus marquant pour moi, c'est que l'Atlético, sur les dernières saisons, tu leur ramènes City, tu leur ramènes le Real Madrid, tu leur ramènes le Barça, tu leur ramènes United, la Juve, des grands clubs, l'Inter là maintenant encore fait les frais, et tu vois qu'il y a une énorme différence entre domicile et l'extérieur, alors que au final, que l'Atlético Madrid passe au tour suivant ou non, on voit tout le temps une grosse différence, et moi je trouve ça quand même formidable parce que moi je prends l'exemple, par exemple un exemple malheureux mais qui a montré quand même les choses, c'est là contre la Juventus de Ronaldo avec ce retour où Ronaldo met le triplé, mais faut pas oublier l'aller où l'Atlético a été vraiment incroyable, je trouve, aussi bien dans le mental, parce que les supporters, évidemment, le fait que tu joues à domicile, t'as les supporters qui poussent, et je trouve que l'Atlético a l'un des meilleurs un des meilleurs publics d'Espagne, donc tu sens quand même une énorme différence, mais aussi dans l'attitude, parce que On va en reparler un petit peu plus après quand on va aborder l'aspect tactique. Mais tu vois que contre l'Inter Milan, alors que l'Inter avait fait un match où ils avaient été très dominateurs à l'aller, bon, on va revenir après sur le plan tactique, sur le plan de jeu qui a été différent évidemment de l'Atlético. Mais ouais, tu sens qu'ils avaient beaucoup plus d'envie, beaucoup un autre aspect. Ils étaient beaucoup plus. On sait que l'Atlético est bagarreur dans le bon sens du terme, mais tu sens qu'il y a cette envie de prouver devant son public à chaque fois qu'ils jouent chez eux.
Tout à fait. Bah tout à fait, là, tu avais donné l'exemple de 2019, à l'époque c'était en plus encore plus marquant, c'était Jiménez et Godin qui avaient marqué les deux buts lors du match aller contre la Juve. C'est le symbole ce match-là de la capacité à se transcender. Le match contre Manchester City il y a 2 ans justement en quart de finale, il est pas gagné, mais il aurait très bien pu nous mener aux prolongations exactement contre l'Inter parce que à la fin on a 2-3 occasions notamment Correa qui rate un face-à-face un petit peu improbable. Il y a une sorte d'impossibilité de défaite surtout dans les grandes soirées comme ça à domicile. Alors évidemment parfois ça arrive parce que c'est impossible d'être infaillible, mais il y a une sorte de mission je pense qui leur est accordée à ce moment-là, et je pense que en grande partie Simeone est responsable de ça. J'ai très curieux de voir les causeries qu'il a avant les grands matchs comme ça, les soirs de match au Metropolitano. Mais c'est vrai que oui, on sent vraiment qu'il rentre dans l'arène et que tout ce qui est fait est fait dans l'impossibilité de perdre, quoi. Il faut absolument gagner ou du moins sauver l'honneur. Et ça, c'est très important pour l'Atlético.
Et ce que j'ajoute aussi, parce que beaucoup de monde a encore cette image de l'Atlético qui défend, qui reste derrière, etc. Mais moi, j'ai oublié le meilleur exemple, là, dans tous mes exemples. Je te parlais de City, je te parlais de la Juve, etc. Moi, je repense à Liverpool aussi, le fameux match à retour contre Liverpool, où tu revois même la même chose face à l'Inter. C'est-à-dire que l'Atlético perd au début le match contre l'Inter, enfin, perd le match aller, mais est mené 1-0. T'as 2 buts à les marquer, donc pour une équipe qui est censée normalement défendre et qui a subi tout le match aller, avoir la capacité, comme tu le dis, d'avoir le mental pour revenir et marquer 2 buts, moi je trouve ça très fort. Et comme tu le dis, c'est le Cholo est l'âme un petit peu de ça, mais tu vois des gars comme Griezmann et comme tout l'effectif qui suivent forcément ce plan de jeu, et moi je trouve ça très fort. Et c'est vrai que l'Atlético de Madrid à domicile est quand même une sacrée forteresse. Beaucoup d'équipes en Europe sont une forteresse à domicile, mais l'Atlético de Madrid, je trouve que c'est vraiment l'une des meilleures en Europe.
Alors, pour résumer, on développera peut-être autre chose, mais pour résumer, c'est vraiment, voilà, pour faire très simple, c'est 2 équipes différentes. L'Atlético à l'extérieur et l'Atlético à domicile, c'est pas du tout les mêmes joueurs, c'est pas du tout Donc là, en l'occurrence, il faut pas trop, malheureusement, pour vous, si je puis me permettre, se calquer sur ce qui s'est passé au match aller, parce que c'est évident que ce sera pas le même match.
Alors, de l'autre côté, on a parlé d'un Atlético très fort à domicile, mais de l'autre côté, on a un Barça en championnat qui est invaincu également à l'extérieur de son côté. 7 victoires et 6 matchs nuls. Et un Barça qui, avait un peu de peine, hein, dans le jeu sur les derniers matchs, malgré des victoires et des prestations positive, hein, pour le Barça, mais il manquait quelque chose dans le jeu. Et puis bah il y a eu ce match face au Napoli, ce match retour où on a vu un Barça un peu plus reluisant dans le jeu, et ça a fait plaisir, je pense, à beaucoup de monde dans les rangs catalans de retrouver un petit peu ce Barça avec ses talents, cette envie d'aller vers l'avant justement.
Oui, j'en parlais dans la preview avant le match contre l'Athletic Club. Pardon. Le Barça est invaincu à l'extérieur en Liga cette saison avec 7 victoires et 6 matchs nuls. Voilà, c'est comme tu as dit, le jeu n'est pas forcément toujours très reluisant, mais depuis cette défaite contre Villarreal et l'annonce de Xavi de son départ en fin de saison, le Barça n'a toujours pas perdu encore un match. Il y a eu cette prestation 1-1 à Naples où le Barça devait gagner ce match et n'a pas été assez efficace pour pouvoir plier le match contre Naples. Puis il y a eu cette grosse victoire contre Getafe qui avait défendu assez haut et avait permis au Barça d'être efficace sur les contres. Donc on avait vu de belles choses. Il y a eu, bon, ce match un petit peu en dessous contre l'Athletic Club où ça finit par 0-0, mais encore un match à San Mamés sans défaite, alors que San Mamés c'est pas du tout un stade facile pour aller prendre 3 points. Et du coup il y a eu cette qualification contre Naples 3-1 avec un Barça qui a été efficace, qui a su montrer de belles phases de jeu, j'ai trouvé. Alors il y a encore quelques petits déchets techniques par moment, voilà, des pertes de balles qui peuvent être évitables, des passes un peu mal appuyées par moment, et tu te dis face à des plus gros clubs ça peut faire mal derrière, mais le Barça commence à à être un petit peu mieux, comme tu le disais, dans le jeu. Il y a eu des belles séquences, notamment le troisième but contre Naples avec Roberto qui s'est bien projeté et qui Gundogan qui donne à Roberto en une touche pour Lewandowski. Enfin, ça c'est un très beau jeu et c'est ce dont le Barça est capable. Donc c'est vrai qu'on va avoir un match assez drôle puisque l'Atlético de Madrid est invaincu en Liga à domicile, mais le Barça est invaincu aussi à l'extérieur. Donc voilà pour la présentation à peu près des Catalans. C'est un match que le Barça aborde avec un meilleur état d'esprit qu'en début d'année. C'est vrai que le début d'année, le Barça enchaînait les défaites. Là, on va dire que le Barça va un petit peu mieux mentalement et dans le jeu.
Au-delà de ce qu'on a pu voir, pour cette stat-là, en tout cas, Mathieu, est-ce que c'est ce qu'on a pu voir mardi, hein, le Barça, mardi soir, face à Naples, est-ce que c'est un Barça avant de venir sur la pelouse du Metropolitano, est-ce que c'est un Barça qui t'inquiète, Mathieu, ou il y a pas raison d'être plus inquiet que ça et de prendre ce match comme il vient au final et le prendre le plus au sérieux possible?
Alors, je vais pas esquiver la question, mais je vais un petit peu déborder en disant que ça dépend tellement de l'état de forme de l'Atlético sur les quelques premières minutes. Si on est dans un match où ils ont décidé de jouer comme contre Cadiz, on a perdu. Oui. S'ils sont dans un match où ils ont décidé de jouer comme contre l'Inter, y a des chances même que le Barça ne voit quasiment pas la surface de réparation. Et c'est tellement du tout au tout que c'est difficile à pronostiquer. Tu vois ce que je veux dire?
Il y aurait donc un Atlético des matchs un peu plus simples et un Atlético des matchs des grandes soirées du coup.
Un Atlético des grandes soirées, c'est sûr. Qui plus est à domicile, on en attend beaucoup. C'est vrai qu'ils ont beaucoup chuté sur des adversaires où parfois on se disait que c'était faisable. Mais d'un côté, l'Atlético est aussi la seule équipe à avoir été autant capable de faire chuter, si je puis me permettre, le Real Madrid cette saison aussi, ouais. Si on compare.
Oui.
Donc
même
j'ai quand
Jérôme
même
n'est pas parvenu, le Barça non plus. Enfin, le Barça, oui, en deux fois. Donc ouais, c'est vrai, c'est notable.
Et donc aujourd'hui, évidemment, on arrive avant un match où le match aller s'était mal passé parce qu'on avait vu, c'était le seul gros match malheureusement où l'Atlético était passé à côté contre le Barça. Ils avaient plutôt bien démarré, mais ils ont perdu le fil trop rapidement et après on les a laissé faire. Voilà, disons la vérité. Disons que évidemment que le Barça, il faut s'en inquiéter. On va en reparler plutôt sur l'aspect tactique, mais moi ce qui me fait le plus peur, c'est plus la défense de l'Atlético et le fait que ça m'étonnerait que le Barça ne marque aucun but lors de ce match dimanche soir. Mais par contre, évidemment, vu que l'attaque de l'Atlético est en forme, il va falloir marquer plus que l'adversaire. Et ça, on l'a vu, ils sont plutôt en forme pour le faire lors des grands soirs. On a encore marqué 2 buts contre le Betis, 2 contre l'Inter. Voilà, on encaisse aussi beaucoup à l'image de ce déplacement qu'on avait fait il y a un petit mois. Ça devait être fin février contre Almeria par exemple, où on en met 2 plutôt rapidement d'une certaine manière, Correa qui marque vite, mais il y a quand même 2-2 au final parce que défensivement les erreurs sont nombreuses.
Alors justement, parlons tactique, Mathieu, on va commencer avec l'Atlético. On a vu un Atlético face à l'Inter Milan utiliser en fait un pressing assez haut pour faire basculer cette rencontre, ce qui a parfaitement marché hein, lors du 8e de finale retour au Metropolitano. Est-ce que c'est un système qui va être, pas du moins un système, mais une façon d'aborder la rencontre qui pourra être de nouveau utilisée face au Barça, ou alors est-ce que on va rester sur des acquis et aborder les rencontres, enfin du moins les grosses rencontres comme elles l'ont été depuis le début de saison?
Je ne pense pas que l'Atlético puisse enchaîner 2 matchs pareils en termes d'intensité, parce qu'il faut quand même dire les choses, même si évidemment je raisonne en tant que supporter, en termes d'intensité, je pense que c'était peut-être le quart de finale huitième de finale le plus intense en termes de niveau physique affiché de A à Z, de la première à la 120e.
C'est vrai que j'ai rarement vu l'Atlético presser, du moins avec une intensité pareille du moins.
Et de manière générale, l'Atlético n'est pas une équipe qui sait presser de manière très correcte. D'ailleurs, le seul but que l'Inter marque, c'est sur une erreur de pressing assez simple, où ils se font aspirer vers l'avant, et en haut de passe, Di Marco se retrouve devant le but et marque.
C'était le risque, ouais.
Voilà. Donc après, ils ont bien géré la chose, parce que forcément, il y avait le temps qui courait et l'impossibilité de jouer autrement. Mais je pense pas que contre le Barça, on joue avec cette intensité-là, dans le sens où ça m'étonnerait que les Colchoneros aillent vers l'avant pour défendre en avançant. À mon avis, c'est trop risqué de le faire contre une équipe comme le Barça, qui en plus est en très grande réussite offensive en ce moment. On a des joueurs de couloir, notamment Lino qui est fantastique, mais Molina aussi sur le côté, ou même Llorente si c'est lui qui est aligné, qui sont très rapides et qui peuvent se projeter très vite en deux passes. Un joueur comme Griezmann, il peut t'amener dans la surface de réparation. Donc je pense que effectivement le Barça aura ses phases de possession, de domination, qui soient peut-être plus tranquilles, parce qu'on est quand même en Liga, hein, faut dire la vérité, c'est pas la même intensité qu'en Ligue des Champions aussi, toute proportion gardée. Donc je pense que l'Atlético, je dirais pas qu'ils vont être attentistes et qu'ils vont tout le temps attendre, mais je pense que va y avoir ces phases où le Barça va avoir la balle et que l'Atlético va l'accepter. Mais par contre, derrière, ce qui peut faire mal, c'est des phases où ça va accélérer très vite, notamment sur les ailes, ouais. Et où là, effectivement, le FC Barcelone va devoir se replier rapidement, parce que quand Lino est parti, je le revois pas.
Ouais, moi je rebondis un petit peu sur l'aspect tactique. Effectivement, c'est vrai que l'Atlético avait fait un Cholo a gagné complètement la bataille tactique contre l'Inter. Griezmann s'était félicité d'ailleurs à la fin du match de la prestation des défenseurs qui avait pressé très haut et très justement dans ce match. Les récupérations avaient été faites hautes, le pressing collectif avait bien marché. Souvent c'était Griezmann qui le déclenchait. Donc c'est vrai que tactiquement le match était bien amené et on peut se dire que voilà, on change pas une tactique qui gagne un petit peu et se dire là on va faire la même chose contre le Barça. Mais le danger, comme tu l'as dit, c'est que le Barça, au-delà d'être efficace, on l'a vu justement contre Etafé, comme je disais tout à l'heure, ils sont très bons sur contre-attaque. Et donc du coup, je pense que ce serait une mauvaise chose de défendre haut, comme tu l'as dit. Je pense que le mieux, ça serait de défendre un peu plus bas. Mais alors attention, parce que la donnée qui reste quand même importante, c'est que je pense que dans ce match-là, l'Atlético de Madrid a plus à perdre que le Barça, dans le sens où le Barça a comme objectif de repasser devant Gironne. Ils sont qu'à un point de la deuxième place, et donc voilà, il serait bien de l'étalonner. Ils sont à 8 points de la première place, même si je pense à titre personnel que la Liga, c'est très compliqué cette saison. Je pense pas qu'ils ont envie de se faire distancer tant que ça. Ça serait en plus 3 points gagnés pour distancer l'Atlético. Mais l'Atlético n'est qu'à 2 points de l'Athletic Club, premier club hors top 4. Et donc je pense que l'Atlético de Madrid a plus à perdre dans ce match que le Barça. Donc comme tu l'as dit, peut-être défendre bas, mais il vaut mieux pas être attentiste, dans le sens où je pense qu'il faut, l'Atlético a plus besoin des 3 points que le Barça.
Ouais, je pense que les deux équipes auront leur phase de possession, en fait. L'Atlético aura des moments où ils s'installeront dans la moitié de terrain adverse et essaieront justement d'aller chercher des petites passes, des petits espaces, de solliciter les centreurs, voilà, Lino, Molina, Llorente, etc. Mais le Barça aura plus de phases comme ça, où ils pourront s'installer, et justement, à mon avis, ça va être le jeu de leur permettre de s'installer, mais de surtout pas leur permettre d'accélérer, pour faire la petite parenthèse Inter très rapide, hein. Oui, d'accord, ils ont gagné 2-1, et ça s'est très bien passé, parce que tactiquement, ça a été géré, mais si vous avez été devant le match, vous avez vu que Marcus Thuram, il en a raté 2 belles, ouais, une du pied, ouais, une de la tête, et si ces contre-attaques-là, elles avaient donné des buts, on serait pas là pour parler, oui, des quarts de finale aujourd'hui. Donc, oui, je crains que si on laisse trop d'espace au Barça, les Valogranas marquent, en l'occurrence.
Ouais.
Côté Barça, justement, pour évoquer un point tactique, on a vu notamment sur les dernières rencontres, et pas forcément que face au Napoli, on l'a vu sur les dernières rencontres de Liga, hein, c'est un Barça qui ne prend plus de buts. En tout cas, depuis 3 journées en Liga, c'est 3 clean sheets d'affilée face à Retafe, la victoire 4-0, le nul face à l'Athletic Club 0-0, et la victoire face à Mallorca le week-end dernier 1-0. C'est vraiment une donnée qui est assez importante côté Barça avant d'aborder cette rencontre quand même.
Oui, et puis je reviens justement, comme tout à l'heure, Mathieu disait que l'Atlético de Madrid marque plus, mais le Barça défend mieux aussi, donc ça aussi, ça va être une bataille très intéressante à regarder, comment la défense du Barça va gérer, parce que bon, j'ai parlé des objectifs du classement, mais il y a un objectif pour le Barça, c'est que avant d'affronter ce quart de finale, d'affronter le PSG en quart de finale, le dernier gros test que le Barça a, c'est cet Atlético de Madrid. Donc je pense que le Barça a besoin de gagner quand même ce match au Wanda Metropolitano pour aborder au mieux ce quart de finale contre le PSG. Et donc du coup, ils ont besoin aussi de consolider leur défense. Donc pour le moment, comme tu l'as très bien dit, ils sont sur 3 clean sheets consécutifs en Liga. On va pas mentir, c'est vrai que le retour de Ter Stegen fait quand même du bien. Peña a remplacé comme il pouvait le gardien allemand, mais c'est pas du tout le même niveau. Tu sens quand même que ça fait un peu plus de bien, même si Ter Stegen garde quand même ses lacunes sur le jeu au pied, qui était son fort par le passé. Et par moments, il a un peu plus de mal dans les relances, mais sur sa ligne, ça reste quand même un gardien, un très bon gardien. Et il faut aussi rappeler que c'est un des capitaines du Barça. Donc voilà, niveau sérénité, le Barça va mieux. Autre chose, on a vu, le monde a fait un petit peu la découverte du jeune Cubarsí, qui s'est imposé dans la défense du Barça. C'est vrai que moi, alors à titre personnel, les deux premiers matchs, j'étais pas forcément très fan de lui. Je le trouvais un peu timide, mais on va pas oublier de rappeler qu'il a l'âge de Yamal, il a à peine 16-17 ans, donc c'est un très jeune.
Et il vient d'être sélectionné en plus.
Comment ?
Il vient d'être sélectionné avec Léa, non ?
Ouais, il vient d'être pris avec l'Espagne. Après 12 matchs en professionnel, il vient d'être appelé avec les A. C'est quelqu'un, alors la grosse force de Cubarsí, ce qui est génial chez lui, et les gens ont dû le voir contre Naples, c'est qu'il est très bon à la relance. Là où Araujo a un peu plus de mal, Araujo est meilleur dans l'impact, Cubarsí est bon à la relance. Inigo Martinez n'est pas blessé, ou en tout cas est revenu de blessure, et Cubarsí est passé devant lui dans la hiérarchie. Donc voilà, je trouve que c'est ces petits changements-là qui ont fait que le Barça va mieux. Tu changes quand même deux personnes de ta défense de base, c'est quand même assez notable. Koundé a retrouvé du niveau. C'est vrai que j'étais le premier à tacler Koundé pendant toute la saison parce qu'il a vraiment été décevant, mais ça fait quelques matchs qu'il revient assez bien. Donc voilà, la défense du Barça retrouve un petit peu plus de couleurs. Et donc je pense que ça va être un vrai test pour le Barça aussi défensivement face à cet Atlético de Madrid qui marque mieux, à l'image de Griezmann, de Morata ou de Memphis Depay en sortie de banc.
Mathieu, cette équipe du Barça qui défend très bien depuis plusieurs rencontres, même si l'Atlético est une belle force offensive ces dernières semaines, est-ce que il y a toujours pas de levier pour aborder la rencontre différemment?
C'est compliqué à dire. Alors honnêtement, c'était le 11 parfait contre l'Inter, mais Morata a déçu. Tu parlais de Morata, tu parlais de Depay. Moi franchement, je serais cholo, je tenterais le coup de poker Depay titulaire à côté de Griezmann. Pour justement essayer de contrer. Voilà, pour la forme du moment et pour justement contrer cette logique défensive du Barça. Morata, il est beaucoup moins en réussite. Si tu regardes les stats sur le papier, les stats, elles sont super, mais il en a marqué les trois quarts en début de saison. Et en fait, depuis décembre, janvier, il est redevenu l'attaquant qu'on connaît, c'est-à-dire très irrégulier. Il lui en faut 5-6 pour en marquer un beau. Mais malheureusement, c'est 5 de trop quand il marque au bout du sixième. Et c'est vrai que Depay, il a été très irrégulier et notamment souvent même inquiétant sur le plan physique. On sentait parfois qu'il était pas assez rapide, pas assez... Il jouait beaucoup trop au ballon, mais il n'était pas assez efficace. Et ça, c'était vraiment le gros problème. De toute façon, l'attaque de l'Atlético, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'investissement, si on fait une parenthèse très courte mercato. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que c'est un problème. Mis à part Griezmann, il n'y a pas vraiment ce joueur de très très haut niveau qui peut être titulaire indiscutable à ses côtés. Et donc je pense qu'il faut raisonner en termes de forme du moment, et il faut aussi raisonner en termes de d'apport tactique. Et en l'occurrence, si on veut avoir nos phases et qu'on veut pas reculer et être contraint à jouer long, il faut vraiment deux joueurs capables de construire. Et Depay, quand il est rentré, il a pris un petit peu ce rôle de Griezmann contre l'Inter. Donc je pense qu'associer les deux, ça permettrait d'avoir une vraie construction, une vraie assise, quitte à lancer des joueurs en profondeur ensuite sur les côtés, et déstabiliser cette défense du Barça qui est pour le coup, oui, effectivement très efficace, et à mon avis sur laquelle Morata se casserait les dents, puisque contrairement au Real qui est un petit peu l'équipe parfaite, quand on les a affrontés c'était des joueurs qui étaient petits en défense centrale, c'était le gardien, c'était pareil, c'était Kepa, donc en l'occurrence de la tête c'était beaucoup plus facile de marquer. Ce sera pas ça contre le Barça, et je pense que Morata sera pas le joueur parfait pour marquer.
Ouais. Est-ce que tu penses, je rebondis sur ça, je comprends dans la construction le fait de mettre Memphis et Griezmann, mais justement, est-ce que t'as pas peur d'avoir deux profils similaires et de manquer d'un profil un peu plus attaquant, justement, même si Morata est en manque de réussite?
C'est sûr que c'est le risque, mais après moi c'est mon avis personnel, je sais que tout le monde sera pas d'accord avec moi dans la communauté Atlético, si je puis dire, mais je pense que mettre Morata pour son profil et uniquement son profil, c'est se méprendre sur sa qualité intrinsèque, c'est-à-dire il rate trop. Après, malheureusement, oui, effectivement, il y a des fois où il est extraordinaire et qui marque des buts fantastiques et qu'il est un attaquant de très haut niveau, ça oui, mais j'ai pas une confiance infaillible en lui, dans le sens où je pense pas contre le Barça on va en avoir autant de cartouches que contre l'Inter, que même lors de matchs, voilà. Et je pense que si on a que 3, 4, 5 grandes occasions, pas plus, il faut en mettre au moins la moitié. Et je pense pas que Morata soit capable de bonifier aussi bien ces ballons-là. Je repense par exemple à une action contre l'Inter où Llorente fait un centre super après un sombrero magnifique sur Di Marco. Il la prend du tibia et part en hauteur alors que c'était une action fantastique. Ça donne même pas lieu à une frappe cadrée. Moi, j'ai tendance à miser, c'est mon avis, mais sur vraiment les joueurs qui sont en forme. Et je pense que quand bien même on a peu d'occasions, je préfère miser sur des joueurs qui sont plus infaillibles, et quitte à ce que limite on n'est pas vraiment de neuf pur, mais que par contre derrière on le fasse rentrer pour justement déstabiliser Morata cette défense, mais même sans neuf pur, pouvoir éventuellement lancer les côtés. On en reparlera peut-être dans les pronostics, mais je vois plus Lino marqué dans ce type de match que Morata, par exemple.
Et ben justement, c'est le temps de faire vos pronos, messieurs, pour ce Atlético Barça. On va commencer avec toi, Mathieu. Quel est ton pronostic pour ce match de la 29e journée?
Alors, c'est assez indécis. Ça va être d'autant plus compliqué défensivement que Hermoso s'est blessé. Donc, il sera certainement remplacé soit par Reinildo, soit par qui sais-je. Mais en tout cas, la défense, qui est déjà faible, va être encore affaiblie aux côtés de Witzel, qui est le taulier. J'ai envie quand même d'être optimiste parce que pour ceux qui me connaissent, je suis un petit peu réputé pour ça. Donc, on va quand même dire 2-1 pour l'Atlético et on va miser sur la victoire. Mais je pense que défensivement, on va souffrir et il va falloir être particulièrement réaliste. Donc 2-1 pour l'Atlético.
2-1 Atlético, c'est noté. Et Ima, de ton côté, combien pour ce Atlético Barça?
Pareil, je vais être optimiste aussi parce que je sais que le Barça a besoin d'une victoire avant de jouer le PSG. Donc je me dis qu'une victoire à l'extérieur, Wanda, qui est invaincu en Liga, ça peut être le vrai coup de pouce pour la suite de la saison. Donc je vois 2-1 pour le Barça. Mais le match nul 1-1 n'est pas, enfin, est totalement ouais. possible.
Ouais, je passe sur le 1-1 moi.
Ouais, c'est, je pense que c'est le plus possible de tous les scores, mais bon, nous sommes des supporters optimistes.
Oui, voilà, mais ça semble effectivement réaliste le match nul dans le sens où il y a des faiblesses des deux côtés qui sont pas les mêmes en plus, donc ce sera à mon avis un duel tout à fait intéressant. J'espère plus emballant que le match aller en l'occurrence.
Oui.
Meilleur spectacle proposé.
Voilà.
Mais même résultat final. Moi, ça m'irait.
Ah, ouais, bon, tout le monde ne sera pas d'accord avec toi, bizarrement.
On verra.
Une petite stat avant de se quitter, messieurs, ça concerne le Barça. Le Barça a marqué 21 buts après la 75e minute cette saison. Seul Liverpool fait mieux en Europe dans les 5 grands championnats.
Voilà, on vibre en fin de match.
Voilà, donc attention à l'Atlético, il va falloir être vigilant jusqu'au bout. Merci à vous deux, messieurs, merci surtout à toi, Mathieu, qu'on peut retrouver sur Twitter, bien sûr, avec Atleti Francia, contrôlant l'actualité du club Colchonero. Donc merci à toi d'être venu, et puis très bonne fin de saison, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à vivre avec l'Atlético, en tout cas.
Merci beaucoup, ouais, ça va être tendu jusqu'au bout. Quand bien même on joue que la quatrième place, l'idée, ça va être la Ligue des Champions pour la saison prochaine, et puis qui sait, peut-être un miracle. C'est souvent quand on les attend pas qu'ils sont bons, donc en C1, on attend de voir.
Parce qu'il y a peut-être même un potentiel Barça-Atlético en demi, donc
j'en rêve.
Potentiellement. Potentiellement. Nous, on n'a toujours pas pris nos deux revanches de 2014 et 2016 en Ligue des Champions, donc j'aimerais bien, franchement.
Écoute, tout est possible quand on ne croit pas en eux, donc ouais. J'y crois quel que soit l'adversaire. Paris-Barça, on prend. Mais avant tout, Dortmund, parce qu'évidemment, vous savez, partido.
Oui, exactement, le fameux partido de Simeone. Merci à vous deux, messieurs, et puis merci à vous de nous suivre chaque semaine. Donc voilà, c'était la dernière preview de la semaine. On se retrouve lundi pour le dernier épisode du décrassage avant la trêve. Et puis d'ici là, on vous proposera quelques épisodes un peu spéciaux, un peu hors série, voilà, d'ici la reprise des championnats dans deux semaines. C'était temps additionnel, passez un excellent week-end de football. Ciao tout le monde.